forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After Foot, jusqu'à minuit, comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, sur RMC, Sport News, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense. Tout bas, ils sont là, comme tous les mercredis. Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Rotten, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ce soir, l'événement, les gars, c'est l'After qui fera l'apologie du beau jeu. Eh oui, le prof de philo, Thibaut Leplat, est de retour parmi nous. Il sera là dans une heure. On va parler esthétique, passion, romantisme de la passe décisive. C'est ce qu'il développe comme théorie intéressante. Ça va beaucoup plaire à Jérôme, vous allez voir. Évidemment, le 32-16 est d'ores et déjà ouvert pour les philosophes en herbe, les adeptes du beau jeu et autres esthètes du football. Bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler. Également au programme ce soir, l'analyse des chiffres de l'année de la DNCG club par club. Alors vous allez voir que oui, ça peut paraître un peu austère, hein, mais non. En fait, ça ne l'est pas, parce que ça dit beaucoup de nos clubs professionnels. On parlera de Pogba qui parle de Real, de Giroud qui est prêt à revenir en France, de Lucas Hernandez au Bayern et des Badgones qui ne veulent plus de Genesio. Quelle surprise. Et puis le retour de notre grande opération équipe type, équipe pip. Ce soir, c'est Sochaux qui est au programme. Le club qui compte le plus de matchs en Ligue 1 dans l'histoire du football français. Eh oui, bon, à l'époque c'était la D1, hein, vous allez me dire. Donc
ils ont marqué là.
Va y avoir du Bazdarevic, va y avoir du Stéphane Paille, va y avoir du Mickaël Madar peut-être. Et effectivement, on a un match en direct ce soir, un match de Ligue des Champions féminine. Édouard G suit de près, il est à Lyon pour le match Lyon-Wolfsbourg. Salut Édouard.
Bonjour messieurs, effectivement, c'est Nika Fischer qui réduit l'écart et qui surtout met ce but à l'extérieur qui peut compter la semaine prochaine lors du match retour. Les Lyonnaises qui étaient bien rentrées dans cette rencontre après une première mi-temps efficace et pleine d'agressivité dans le bon sens du terme, et puis de Grinta aussi. Il y avait 2-0, Eugénie Le Sommer et Wendy Renard, 11e et 18e minute. Elles auraient pu aussi marquer le but du 3-0. Et puis la deuxième période est à sens unique, mais sens unique allemand sur ce coup. Et c'est assez logique que la capitaine réduise l'écart. Donc
déjà le dernier quart d'heure de la première période, les Allemandes étaient commençaient à être au-dessus.
Un petit peu, ouais, mais c'est vrai que dans les Lyonnaises sont vraiment en grande difficulté. Elles sont en souffrance, elles étaient en mode résistance. On pensait que ça allait tenir. Là, il y a eu un arrêt de Sarah Bouhadi, mais sur la balle qui est revenue, eh bien c'est la capitaine, donc Nika Fischer, qui relance les Allemandes. Et donc ça fait 2-1 à la 65e minute de jeu. Les Lyonnaises qui ont donc beaucoup donné dans cette entame de rencontre, beaucoup laissé aussi peut-être d'énergie qu'ils sont peut-être en train de payer. 2-1 donc pour l'OL, 65e minute.
Est-ce que Lyon est toujours la meilleure équipe féminine d'Europe actuellement, Edouard?
Bah, on va le savoir
déjà. Perdent leur titre.
Donc là, elles sont
déjà sur le papier, tout ça, quoi. Enfin, est-ce qu'elles sont toujours normalement les favorites numéro 1?
Normalement, mais c'est vraiment. Alors, je sais que tu vas pas aimer cette formule, mon cher Gilbert, mais c'est une finale avant la lettre, hein, parce que ces deux équipes ont l'habitude de
C'est un peu poncif, ça.
C'est un peu poncif, mais sur les 8 dernières années, à part Francfort qui a gagné, les autres fois, c'est 5 fois Lyon et 2 fois Wolfsburg, et les joueuses, les deux équipes se sont rencontrées 3 fois en finale. Pour l'instant, Lyon mène 2-1 en finale. Il y a eu aussi déjà une position en quart de finale. Les Lyonnaises l'avaient emporté sur les deux matchs, avec le match aller d'ailleurs en Allemagne qu'elles avaient remporté 2-0, mais elles avaient perdu ici même 1-0, mais ça avait quand même suffi pour se qualifier. Et là, pour l'instant, c'était bien parti en première période, et là ça se complique un petit peu, donc les Lyonnaises.
Et en demi, ça pourrait faire PSG Lyon.
Ouais, donc 2-1 pour le moment à la 66e minute.
Super au point sur la Ligue des Champions féminines.
Peut-être falloir que tu t'y mettes. Hein,
bah non, parce moi j'ai bossé le truc, mais je suis étonné.
Je suis simplement en train de me préparer à fond les ballons. Je te l'annonce. Là, je peux te raconter tout ce que tu veux.
Sur 15 jours, il y a Jean Bouin. Il fait ses.
Je peux te dire ce que tu veux sur la.
Jean Bouin. Bah non, elle joue à Charletti.
Non, Jean Bouin. T'as Jean Bouin. Excuse-moi. Donc toi qui es bien renseigné maintenant. Non, à Charletti, c'était avant. Le PSG jouait à Jean Bouin.
Je suis allé voir le PFC, jouer à Bob Bobin à Bondoufle, j'ai tout fait là. Bah oui, je bosse, je prépare, il y a la Coupe du Monde chez nous, il paraît qu'on va en parler. Moi si on n'en parle pas, je m'en fous, mais il paraît qu'on va en parler, donc faut bien bosser un peu.
Bravo, chapeau l'artiste. Pendant ce temps-là, chez les garçons, il y a un match amical ce soir sympa entre l'Allemagne et la Serbie. Et figurez-vous qu'après 65 minutes, c'est la Serbie qui mène 1-0 avec un but de Jovic, le joueur de l'Eintracht
Francfort. Les Allemands, ils sont fondus sac ou quoi là
c'est sûr que s'ils perdent, ça va relancer le débat sur fallait-il virer les vieux et tout. Ils jouent avec l'attaquant préféré de David Lortho, qui est titulaire, le célèbre Timo Werner, qui pour l'instant n'a pas marqué.
Je vous invite à regarder la Coupe du Monde. Bon, sinon c'est soir de fête, alors je fais un petit clin d'œil quand même parce que parce que Arnaud Larrère des fêtes de Bayonne, puisque tu sais que nous avons quand même une relation un peu étroite maintenant avec les fêtes de Bayonne depuis l'année dernière par l'intermédiaire
d'Adrien. Oui, depuis que t'as dit que c'était pas des fêtes et que c'était un truc où finalement on finissait allongé dans le vomi.
C'est ça.
Donc depuis Adrien Aiguin m'a convaincu du contraire et c'est vrai. Et en tout cas, ce sont des types super sympas que j'ai croisés d'ailleurs il y a pas longtemps. Là, ils étaient à Paris. Alors ils m'ont envoyé tout le kit pour aller faire les fêtes de Bayonne. Là, j'ai les bracelets, les foulards, les polos, j'ai tout là, voilà. Donc, sauf que c'est le 26 juillet, quoi. 26 juillet,
bon,
c'était compliqué
pas.
Pour moi. Ouais. C'était compliqué.
Alors,
mais en tout cas, je les remercie vraiment chaleureusement.
L'actu du jour, les gars, on y va. Bah tiens, Edouard est là, ça tombe très bien, parce que on va commencer.
Tu veux commencer par ça, toi, dans l'actu du jour.
Bah oui, Edouard est là, faut profiter de sa présence.
Que demande le peuple, quoi, en gros.
Que demande le peuple? Que demandent les Badgones qui s'expriment aujourd'hui? Alors les Badgones, c'est difficile, hein. D'habitude, voilà, ils restent un peu dans leur coin. Ils aiment pas trop les médias, même pas du tout. Donc ils communiquent là et ils disent voilà, nous estimons, comme nous l'avons déjà affirmé la saison passée, que seul le départ de Bruno Genesio pourra permettre un climat plus serein autour du club. Voilà ce que disent les Badgones. En gros, ils réclament clairement le départ de Genesio et ils expliquent l'avoir exprimé de façon claire à Jean-Michel Aulas. Voilà. Alors,
parce que Jean-Michel Aulas, au
préalable, va-t-il écouter les supporters?
Le dire, Jean-Michel Aulas avait déclaré que l'avis des supporters compterait.
Et qu'il est en train de faire le tour des clubs de supporters.
Ce qui est quand même, je trouve en soi, assez étonnant. J'ai pas souvenir qu'un président de club
se soit
adressé aux supporters pour demander leur avis. Généralement, les supporters manifestent quand ils ne veulent plus d'un entraîneur, quand ils veulent du changement. On a connu l'époque des banderoles, des sifflets, des cris, de tout ce que tu veux.
Il y en a eu des banderoles anti-Genesio.
Bien sûr, mais rarement ça s'est fait de cette façon-là. Et là, il l'avait dit, visiblement, il le fait, il demande.
Il y a un peu de démago évidemment... de la part de Jean-Michel Aulas, Edouard, ou
c'est un dossier où on se perd.
Démago,
on se perd vraiment en conjecture parce qu'on sait vraiment pas ce que cela veut dire. Est-ce qu'il va essayer de convaincre les supporters qu'il veut continuer avec lui? Est-ce que alors attention avec peut-être le deuxième but pour les Allemands sur ce compte. Non, finalement, elle n'arrive pas à redresser la course du ballon Alexandra Popp et finalement ça va terminer dans les bras de Sarah Bouadi. Oui, franchement. Franchement, on ne sait pas s'il veut aller voir les supporters pour leur expliquer, par exemple, qu'il voudrait continuer avec Bruno Genesio et pourquoi il voudrait le faire. Est-ce que c'est pour leur annoncer qu'il va arrêter? Voilà, ça, c'est franchement la personne parmi les suiveurs qui connaît la réponse, elle est forte. En tout cas, moi, mes radars ne me permettent pas. Ne me permettent pas de le dire. D'autant que, vous savez, vous connaissez l'histoire, hein, Bruno Genesio. En mois de mai dernier, dans comme un accord avec le président Aulas, n'a pas voulu prolonger son contrat qui arrive à fin expiration à fin juin 2019, alors qu'il aurait pu parce qu'il y avait cette qualification en Ligue des Champions qui souvent vaut un bonus au niveau du contrat. Et il s'était dit voilà, on se reverra l'année prochaine pour discuter de tout ça. L'année prochaine, on l'avait compris que c'était plutôt en fin d'année, donc au mois de mai après la dernière journée le 25 mai. Et puis finalement, Bruno Genesio, à partir du mois de décembre, a commencé à dire il faut peut-être qu'on ait une réponse avant la fin mars. Et du coup, Jean-Michel Aulas est revenu sur le timing et ça sera fin mars.
Est-ce que Aulas, après, à ton avis, est-ce qu'il a pris une décision lui-même déjà?
Je ne sais pas. Oui, franchement,
peut-être que lui-même doute encore.
Quand même.
Là, franchement, la personne qui sait, en tout cas, moi, je ne sais pas.
La question qui se pose, c'est ce type de gouvernance. Est-il bon ou pas bon? Moi, je trouve que c'est intéressant ce qui est en train de se passer à Lyon. Comme c'est assez novateur, j'ai pas de réel avis pour l'instant. Je suis en train d'observer ce qui se passe. Ça a le mérite d'être original et donc intéressant. Est-ce que on trouve normal ou pas qu'un président aille demander aux supporters si l'entraîneur convient?
Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
C'est une question qui est délicate, qui a plusieurs aspects là-dedans à étudier quand même.
Je pense que il fait le tour. Mais pourquoi il fait le tour? Parce que de toute façon, il s'en rend compte. Moi, je suis allé une fois au Parc OL cette année commenter un match de Champions League. J'ai senti qu'il y avait un problème avec une partie des supporters lyonnais et Bruno Genesio. Quand ton entraîneur t'es content de lui, mais que il est annoncé par le speaker son nom et qu'il se fait siffler, c'est qu'il y a un gros souci déjà. Alors que Lyon était dans une bonne période à ce moment-là. Donc s'il fait le tour des supporters, la logique voudrait qu'il ne le garde pas. S'il prend en avis ce rapport-là, je pense qu'il est assez grand quand même pour faire le tour et se rendre compte que Lyon a peut-être besoin de renouvellement. Et ça commence par le staff et en l'occurrence Bruno Genesio.
Il faudrait lui poser la question quand il annoncera son choix. Est-ce que le choix des supporters a pesé ou pas?
Maintenant, s'il pense le contraire, parce que ça se trouve, il pense que c'est pas l'entraîneur.
C'est ça la question.
Non, mais moi je trouve pas ça scandaleux qu'il discute avec les supporters.
Mais moi je.
Après, alors, quel est le pourcentage? La vraie question et franchement, je n'arrive pas.
T'as l'impression d'être dans un jeu télé. L'avis du public compte pour 20%, l'avis des actionnaires
ça,
pour 50%.
Moi, je pense que tous les avis sont importants. Plaisir,
voilà.
Mais ça se quantifie pas comme ça.
Mais en termes de quantité, ça représente quoi? Les sifflets, certes, il y en a, mais
c'est ça. Edouard, c'est ça.
C'est
franchement. Ouvre une piste.
C'est très difficile à savoir.
Les supporters de Lyon, les supporters.
Tu fais un peu le naïf quand même, parce que.
Ah non, franchement, je suis là. Je vis à Lyon. Non.
La question que pose Edouard est intéressante.
Mais franchement,
qu'est-ce
je te pose la
dire
question.
C'est les assos de supporters qui, à l'intérieur des assos, un supporter. Moi, attention, je respecte profondément tous les groupes de supporters, les ultras, mais ils n'ont pas le monopole du supporterisme d'un club. Au PSG, les ultras sont là, fidèles et tout, c'est parfait, mais ailleurs dans le parc, des vieux, des jeunes, il y a des supporters partout. À Marseille, il y a beaucoup d'assos. C'est encore un petit peu plus particulier.
Daniel, les supporters.
Mais il y a des gens. Je sais, l'OM est un club qui regroupe peut-être le plus de supporters en France. Ils sont pas tous encartés.
Ouais.
Donc pourquoi t'irais consulter des encartés et pas les autres? Donc cette forme de démocratie populaire. D'aller voir les supporters et certains et pas d'autres parce qu'ils sont dans des organisations. Moi, je sais pas, j'ai toujours considéré que tout ce qui gravitait autour d'un club, c'était plus comme une entreprise et que les supporters, ou en tout cas les groupes, pour le coup, étaient plus comme des syndicats. Donc, tu peux pas leur nier un droit de parole, mais c'est plus un droit de parole qui se fait dans la manifestation.
Je pense que
pas
c'est
trop dans l'expression d'un vote. En fait, s'ils sont pas contents, ils mettent une banderole. Tu sais, c'est un peu le système de l'acclamation, tu vois.
Mais à l'arrivée, quand t'es président du club et que quand t'as vécu dans un club, que t'es joueur, dirigeant, qu'est-ce qui reste de toute façon? On te le dit, hein, quand t'es dans un club. Les joueurs, ils sont tous de passage. Les dirigeants, c'est la même chose. Ce qui reste, c'est les supporters.
Mais c'est pas eux qui vont prendre les décisions, quand même.
Non, mais je pense que.
Ce qui reste, c'est les titres, quand même.
Mais les titres, ouais, alors, dans ces cas-là, Bruno Genesio, il sera plus là, parce que les titres à Lyon, il y en a pas. Donc,
quel pouvoir tu lui donnes, en fait, aux supporters encartés par rapport à l'autre?
Moi, je pense que c'est bien. Il a raison de le faire. Après, c'est sa décision, bien sûr, et que c'est pas parce que tous les supporters vont dire, il faut virer Bruno Genesio, que d'un seul coup, il va se dire, bon, écoute, il faut que je le vire. Mais, c'est important de le savoir pour lui parce qu'en effet, il y a des sifflets. Alors, je rejoins Edouard sur le fait que tu sais pas les sifflets, quel pourcentage ça représente sur l'ensemble du stade. En tout cas, moi, la fois où je suis allé, ça représentait une bonne partie.
Il y a une vraie contestation.
Et que vaut mieux dans la vie d'un club. Quand tu veux renouveler, amener un petit peu de fraîcheur, vaut mieux que les supporters soient contents de ce qui se passe dans la vie de ton club.
C'est-à-dire, je crois que c'est le message un petit peu des bad guns. C'est de dire, y a tellement un bashing depuis le début, parce que je répète depuis le 24 décembre 2015, depuis le 23 et qu'on sait qu'à peu près c'est lui, il y a une pétition contre lui. Chaque match qu'il fait, que ça gagne, que ça perde, c'est toujours de sa faute.
Si les supporters expriment un rejet de Genesio depuis 3 ans et que là ils le réexpriment, ça va rien changer alors.
Mais la durée peut faire fléchir Jean-Michel Aulas. Non mais
c'est... parce que la durée de vie à l'OL, c'est quand même 2 ans pour Jacques Santini, 3 ans pour Paul Le Guen, 2 ans pour Gérard Rouillet. Bon, Alain Perrin, c'est
là, Genesio, il serait logiquement à la fin d'un cycle.
3 ans et demi.
C'est pour ça que je pense que finalement, c'est ça.
Il y a une certaine logique par rapport à ça.
Il y aura une logique à ce que ça se termine maintenant. Non, mais dans cette consultation des supporters qui est nouvelle. Pour moi, elle pose question. Dans le système espagnol des 3 clubs qui sont socios, tu élis un président qui parfois fait la promesse qu'il viendra avec tel entraîneur ou tel joueur et tout, mais après, lui, il a son mandat. Et si le travail qu'il a fait ne te plaît pas, c'est le président que tu viens, mais pas l'entraîneur. Le public, s'il est pas content d'un entraîneur au bout de 2 ans pendant le mandat et tout, il va manifester ou acclamer. C'est un truc, une sorte de démocratie un petit peu, primitive, on va dire, soit t'applaudis, soit tu siffles, ben comme on voit au stade. Mais là, le fait d'aller demander, ça veut dire quoi? Est-ce que t'envisages quoi à la suite de ça? Une consultation pour savoir s'il faut recruter tel ou tel joueur. Une consultation pour savoir si tu fais ça.
Il faut avoir la conscience tranquille dans le sens où aujourd'hui c'est peut-être
terminer,
acté le départ de Genesio.
Juste pour terminer, le problématique du début, c'est que Jean-Michel Aulas a mis en difficulté son coach sur le thème quand il fallait nommer un remplaçant Hubert Fournier. Je vous aurai un très grand entraîneur qui viendra de l'étranger. Et finalement, ça a été Bruno Genesio. Ça a mis déjà d'entrée en difficulté le coach. Et puis, ça fait 3 ans et demi qu'il est là. Je vous le dis, c'est vraiment un délai énorme.
Alors, tiens, j'ai pi sur le hashtag RMC Live qui nous dit il y a qu'à Monaco qui a pas besoin de demander l'avis aux supporters. Dit pi. Quoique ces derniers temps, ils ont été vindicatifs, les supporters de Monaco.
Mais c'est vrai que là, on en revient sur la durée de vie de Genesio. Il faut pas oublier aussi les bonnes choses qu'il a fait à Lyon, et que quand t'as vécu dans un groupe comme ça, que t'as un entraîneur avec beaucoup d'ambition, un club avec une grosse pression quand même, je pense qu'au bout de 3 ans, c'est le délai, c'est la fin d'un cycle. Il faut passer à autre chose. Si au bout de 3 ans, tu sens que ton équipe, elle ne progresse plus et que t'as pas gagné de titre, alors attention, il peut peut-être gagner la Coupe de France cette année. Je lui souhaite, en tout cas, je le souhaite à Lyon, mais Ça montre que vraiment il est à la fin de ce cycle-là, et je pense que Jean-Michel Aulas et ses administrateurs réfléchissent comme ça aujourd'hui. C'est pas contre lui, bien sûr qu'il a fait du bon boulot, mais je trouve que ce club quand même il stagne, et même pire que ça, je trouve.
Et c'est Jean-Michel Aulas qui décide.
Oui, en plus.
Tu le mets au singulier.
Info qui est liée à l'OL. Olivier Giroud qui a donné une interview au Progrès. Alors, il y a un intérêt de Lyon pour Olivier Giroud. Et là, Giroud dit, on peut imaginer un retour en France. On ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Moi, je suis heureux quand je joue. Et après, il a fait l'éloge de Lyon, grand club français, bon joueur, bon staff, etc. On les a vus contre City, même si contre Barcelone, ça a été dur et tout. Bonne idée pour Lyon et pour Giroud ou pas?
Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée déjà sur pas contre Giroud, parce que Giroud a encore je pense quelques années au haut niveau. Il a du mal en Angleterre c'est ce que je te dis. Donc laisse-moi finir. C'est pour ça que je te dis c'est pas contre Giroud, mais dans le profil Giroud qui t'oblige à jouer d'une certaine façon. Je suis pas certain que aujourd'hui, prends Olivier Giroud, c'est pour changer les principes de jeu de Lyon. Les gens, s'ils gueulent sur Genesio aujourd'hui, les supporters, c'est que, et moi le premier, quand tu vois Lyon, tu sais pas trop par moment. Il commence un match, tu sais pas ce qui va se passer. Tu peux être surpris. Il y a des entraîneurs, ils arrivent tout de suite. Ils ont des principes de jeu bien précis et tu le ressens. Je pense que Lyon a besoin de ça, d'un entraîneur comme ça avec un impact important. Et l'arrivée d'Olivier Giroud, c'est peut-être pas bon signe dans le style de l'entraîneur. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'il rentre vraiment dans un schéma type quoi quand même.
Après. Giroud, il est en fin de piste. À l'étranger, c'est fini pour lui. Ça fait quelques temps maintenant qu'il est plus titulaire.
Il est plus ou moins de la région parce qu'il est de Grenoble.
Il a plutôt envie de revenir en Ligue 1. En Ligue 1, où est-ce que tu veux qu'il aille? Il va pas avoir sa place au PSG. Qu'est-ce qu'il a envie de viser? Lyon, effectivement.
L'OM, c'est pas moche pour Giroud. Lille, s'il joue la Ligue des Champions.
Non mais d'accord.
Lille.
Non mais si tu t'appelles Giroud, tu préfères. Si tu veux revenir en Ligue 1 et que t'as pas le PSG, tu vas aller où? Tu vas aller à Lyon. Tu vas aller où?
Il y a l'argument Ligue des Champions qui peut poser.
Et voilà.
Ouais, mais bon, attends, attention.
Tu vas à Lyon, tu sais que tu peux jouer la Ligue des Champions.
Non, mais toi, tu parles.
C'est un club qui affiche
on va dire quand même plus de stabilité et un projet plus clair qu'à l'OM.
Est-ce qu'il est en position de force aujourd'hui pour te dire ouais bah écoute je sais pas Paris parce que Paris j'aurais pas mais je vais aller à Lyon.
Non, je t'ai pas dit qu'il était en position.
Non, mais
de force.
C'est pour ça.
Je t'ai dit si t'es à sa place.
Bah si je suis à sa place, moi j'ai dit si j'ai envie de revenir en France.
Où tu vas aller?
Écoute, principalement un club qui va faire la Ligue des Champions. Ah bah
donc
j'espère.
À Lyon.
J'espère.
À Lyon.
Ouais, mais après tu peux aussi avoir le recul, te dire bon bah écoute.
Va pas aller à Lille, il sait pas avec qui il va jouer, il sait pas dans quel état est le projet
écoute,
et tout.
Rapport...
Le club qui fait qui offre le plus de stabilité, plus de sérieux, plus bah c'est Lyon.
Mais par rapport au profil qu'il a lui, et par rapport au style de l'équipe, bah je le verrai plus à Lille.
Alors Laurent est là
Lille,
au 32.
Il sait même pas avec qui il va jouer.
Non. Salut Laurent.
Voyons.
Salut toute l'équipe.
Toi, tu voulais parler de l'éventuel futur entraîneur de Lyon.
Bah oui, moi je crois qu'il est déjà dans la place. Hein.
Ah bon?
Bah c'est... oui, pour moi c'est Reynald Pedros.
Ah oui, qui s'occupe des féminines. Ah, je pensais que tu allais dire Batik, comme Genesio était l'adjoint précédent.
Ouais.
Bon. Donc
Pedros. Bah, pour moi, Reynald Pedros déjà c'est quelqu'un qui est un adepte du beau jeu. Du beau jeu, et je pense qu'à Lyon, il y a des joueurs pour jouer bien au ballon, plutôt que certains qui jouent un
non
petit
mais ça,
peu
c'est
bourrin,
ce que toi, t'aurais envie.
Et tout ça. C'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui a une carte de visite en tant qu'ancien joueur. Il connaît très très bien le football, et je pense que ben, je le verrais bien, moi, entraîner l'équipe première. Il est tout à fait dans le moule lyonnais, même si c'est un ancien Nantais. Et moi, j'adore ce gars. Déjà, quand il était consultant, on sentait qu'il pouvait le football. Et puis là, il fait un super bon boulot avec les filles. Et je pense qu'il passerait très très bien aussi avec l'équipe pro.
Attends, on va demander à Edouard ce qu'il en pense parce que lui, qui suit l'OL au quotidien, les filles comme les garçons, Edouard.
Oui, bah pourquoi pas, hein. ça peut être une piste. C'est vrai que la filière lyonnaise et puis jusqu'à présent il a gagné avec les filles et ça aux yeux du boss ça compte, et il apprend aussi à travailler avec le président parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant au fil des années au niveau de Jean-Michel Aulas. Il est quand même assez interventionniste, hein. Il veut tout savoir, donc il faut que l'entraîneur soit compatible avec ça, et ça je pense pas qu'il y ait de changement.
Faut qu'il soit français pour voir les...
Oui, bah oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, déjà, il y a toute cette donnée là, et c'est vrai que pourquoi pas Reynald Pedros, ben déjà qui bosse avec Jean-Michel Aulas au niveau des filles, donc il connaît le fonctionnement. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.
Laurent, merci en tout cas pour cet avis. On suit pour Pedros.
Ça m'étonnerait
hein.
Beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup parce que après Genesio, ce dont il va avoir envie, c'est quand même d'un mec qui a un nom, quoi, qui a une sorte de passé, quelque chose à vendre, une histoire à raconter.
Oui, exactement.
Je le vois pas du tout aller chercher Pedro. Je suis pas sûr que les supporters accueillent ça.
Le score Lyon dans le match féminin.
Toujours un petit but d'avance pour les Lyonnaises qui menaient 2-0 à la mi-temps. Désormais c'est 2-1 et il reste 5 minutes dans cette rencontre.
Et pendant ce temps-là, l'Allemagne égalise face à la Serbie dans le match amical du soir. Je vous donne le buteur. Dans quelques instants, c'est Goretzka qui vient d'égaliser pour les Allemands. Dans quelques secondes, Pogba également au programme. Et puis la DNCG qui a rendu public ses résultats de l'année. C'est toujours intéressant et c'est à décrypter dans quelques instants dans l'After avec Pierre Rondeau. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten est là, Daniel Rigolo est là, Pierre Rondeau nous rejoint, notre expert de toutes les questions économiques dans la finance. Salut Pierre. Exactement. On va parler de thunes dans quelques instants.
Thunes.
Mais d'abord, on va parler ballon avec Edouard G. Les filles de Lyon face à Wolfsburg en Ligue des Champions. Edouard, où en est-on?
On va rentrer dans le temps additionnel. Toujours 2-1 pour les Lyonnaises qui menaient 2-0 rapidement dans cette rencontre. Eugénie Le Sommer à la 11e minute. Wendy Renard à la 18e. Un premier acte assez abouti dans l'ensemble. Mais l'entame de la deuxième période fut totalement allemande. Et à la 63e, Katia Fischer a réduit l'écart. Donc 2-1. Pour l'instant, les Lyonnaises essayent pourquoi pas d'aller marquer ce troisième but, mais ça va être très difficile face à cette équipe championne d'Allemagne en titre qui tient la dragée haute aux championnes d'Europe, quintuple championne d'Europe en titre, les Lyonnaises. D'ailleurs, c'était la finale de l'année dernière à Kiev. Les Lyonnaises l'avaient emporté au bout de la prolongation. Toujours 3-1 avec un ballon qui traîne dans la surface de réparation.
Toujours 2-1,
et je croyais que ce tir là de ce Shine Ice
Van Sanden allait peut-être faire mouche, mais finalement il a complètement manqué le ballon. On est dans le temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel, Gilbert, Daniel, Jérôme et les Lyonnaises qui pour l'instant mènent 2-1. C'était vraiment un beau match hein, dans l'ensemble. Alors, beaucoup d'intensité, notamment en première période, beaucoup d'intensité mise par les Lyonnaises. Elles remportaient tous les duels. Elles ont rapidement mené 2-0, mais finalement, il y a 2-1. On est dans le temps additionnel, plus que 2 minutes 30.
Info qui vient de tomber, André Di Maria s'est blessé avec la sélection argentine, lésion musculaire. Il rentre à Paris. Et c'est au Maroc, là, les Argentins. Donc, un peu plus d'infos ce soir sur la nature de la blessure. Et puis, je voulais vous faire écouter Pogba. Alors, Pogba, aujourd'hui, là, le grand événement, c'est que les fameuses bagues que Pogba voulait a offert à tous ses collègues champions du monde sont arrivées. Alors si vous voulez la voir, elle est sur rmcsport.fr. Moi je la trouve assez moche.
Bah, elle est discrète.
Faut vouloir la porter. Hein.
Elle est très discrète.
Elle a la bagouze énorme bleu blanc rouge. Faut avoir envie.
Ouais. Après c'est...
Après ça, c'est... les mecs ils les portent pas. C'est pour mettre dans la vitrine.
Heureusement.
Dans la vitrine.
Pour revendre sur eBay.
Mais tu la mets dans la vitrine. Mais est-ce que ça a vraiment une valeur? C'est un joueur qui te.
Ouais. Oui, c'est pas comme la tradition de la NBA, par exemple.
Exactement, ouais, c'est ça.
Dans les tournois de poker, aussi, on file des bagues et des bracelets.
Ah oui, ça se fait, ça?
Oui.
Ce genre de bracelet?
Neymar en a un.
Neymar, il a un.
Il y avait une polémique à Las Vegas parce que les bracelets, c'est une récompense hyper cotée.
Il a gagné un tournoi.
Du monde à Las Vegas. Il y a par an, 65 tournois très cotés. T'as plus les grands joueurs et tout. Et donc, avoir un bracelet, c'est vraiment le Graal absolu. Et l'organisation, parce que comme il y va souvent et qu'il adore et que c'est un passionné, l'organisation a décidé que pour lui, parce que c'était une star hors poker, ils lui ont filé un bracelet. Ce qui a pas été bien vu du tout par la communauté poker. Il dit, bah, pourquoi lui un bracelet alors que nous on rame sans arrêt pour l'avoir.
Ça, je devrais y aller.
Mais il aide un peu la promo aussi du poker. Il adore vraiment ça. Donc, bon, ça a été justifié comme ça.
Écoutez Pogba, parce que si Giroud parle de Lyon.
Vegas.
Pogba lui.
Chez moi, si tu veux, c'est bien.
Ouais, non.
Pogba lui parle du Real. On écoute.
J'ai toujours dit, Real Madrid, c'est un club de rêve pour tout le monde. C'est un des plus grands clubs au monde. Et ouais, y a Zidane qui en est coach. C'est un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot. Maintenant, là où je suis heureux à Manchester. Je joue. On a eu un nouveau coach. Donc. Pour l'instant, je suis à Manchester. Après, plus tard, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous dira. Mais aujourd'hui, je suis à Manchester et je suis heureux.
Bon, ben voilà, la panoplie, la réponse parfaite du footballeur. J'ouvre la porte pour éventuellement y aller.
Il y a des choses.
Daniel va traduire.
On
croit entendre Jérôme quand il a failli aller à
Manchester. Il y a des choses. Il y a des choses dans le propos. C'est d'abord le pouvoir d'attraction incroyable de Zidane. Aujourd'hui,
dans le fait l'air du Real. Il fait plus de Zidane que du Real, donc.
D'abord, de Zidane, c'est très important pour beaucoup de joueurs. Il y a une sorte de pôle attractif comme ça. Certains ont envie de jouer avec lui. Et deux, effectivement, le Real. Tu sais, il y a les gens qui nous écoutent, qui sont plus jeunes, pensent que ça a toujours été ça. Mais il y a 20 ans, t'as pas un joueur qui aurait dit ça, par exemple. À l'époque, moi j'ai grandi dans l'époque où le rêve c'était de jouer à Milan ou à la Juve quand le championnat italien était très fort. Ensuite de jouer en Angleterre et notamment Manchester. Là c'est vrai que Real et Barça en termes d'attraction.
Il y a quelques années, Ronaldo est pas bien parti là-bas. Beckham est parti au Real.
On parle de 10 ans, d'une affaire de 10 ans.
Ouais, un peu plus quand même. Daniel, c'était
non, quand Beckham, quand les Galactiques qui vont et 2002, quand les Galactiques 2003. On n'est pas encore dans, parce que justement à l'époque le Real a du mal à gagner, enfin recommence à peine à gagner. Là maintenant, ils sont tellement avec leurs les 4 en 5 ans et tout. Là aujourd'hui, la plupart des joueurs, c'est le club qui coche en 1. Mais oui, alors peut-être que je disais quoi, il y a 20 ans et ils ont commencé à regagner début des années 2000, mais toute la période 2002 ou à 2013 quand ils gagnaient plus 2014, ils avaient moins cette attractivité-là. À la limite, le Barça, à un moment, on a eu plus. C'est intéressant de suivre les modes chez les joueurs et qu'est-ce qui rend attractif. Et moi, je te dis, quand j'étais jeune, c'était d'aller jouer soit en Italie, soit en Angleterre. Aller jouer au Real ou au Barça, ça attirait pas tant que ça à l'époque.
Après, pour revenir sur... Quand le journaliste pose une question, tes joueurs, sur le Real Madrid, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Non, ça m'intéresse pas. Déjà, il se ferme la porte au cas où ça peut un jour l'intéresser. Il parle de Zidane parce que c'est l'attraction ces derniers temps. Il vient de revenir, donc forcément Zidane. Et puis en tant que joueur français, naturellement, t'as beaucoup de respect par rapport à sa carrière de joueur aussi d'entraîneur. Et puis après, il te dit, oui, mais je suis à Manchester. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va finir l'année et puis il verra encore une fois s'il y a des offres et si le Real, qui a entre 300 et 500 millions pour recruter, Pierre va pas me contredire parce qu'on en a parlé lundi dans Footissime, est-ce qu'il fera partie de ces 300 ou 500 millions sur une offre? Moi, j'en suis pas certain. Dans tous les cas, je pense que c'est pas la priorité du Real Madrid de prendre Pogba aujourd'hui. Maintenant, je me trompe peut-être.
Alors à suivre. On va parler de la DNCG maintenant avec Pierre. Donc le rapport de la saison 2017-2018, bien sûr. Alors précisons que c'est un rapport totalement public. Hein.
Oui.
Pierre, n'importe qui peut avoir accès aux chiffres.
N'importe qui.
Voilà. La différence, c'est que toi, tu les as analysés. Et que
j'ai essayé.
Pour le faire.
J'ai essayé de faire une analyse assez sérieuse sur les chiffres de la DNCG. Et ce qui ressort, c'est, alors les titres ont été sortis dans la presse. On a mis en avant que le football français allait mieux, que la dette, que peu de clubs finalement étaient endettés. Moi, ce qui me paraît très...
Oh, c'est fini à Lyon. Excuse-moi, Pierre. Faut qu'Edouard conclue. Terminé entre Lyon et Wolfsburg.
Voilà. Ouais, c'est terminé. C'était une grande option à la mi-temps puisque les Lyonnaises menaient 2-0. Le Gini Le Sommer à la 11e minute. Wendy Renard à la 18e au terme d'un premier acte abouti. Mais finalement, c'est une petite option pour les quarts de finale pour passer ce cap, tout simplement parce que les Allemandes ont réduit l'écart à l'heure de jeu. Donc 2-1 pour les Lyonnaises. Le match retour, c'est en Allemagne dans une semaine avec au bout, pour la gagnante, un billet pour les demi-finales de la compétition.
Merci Edouard, bonne soirée. Pendant ce temps-là, partout entre l'Allemagne et la Serbie, reste 2 minutes. Pierre, tu peux reprendre.
Alors, on reprend. Donc, on a deux lignes très importantes dans ce rapport qui détaille tous les comptes des clubs. On a les résultats d'exploitation et les résultats nets. Les résultats d'exploitation, c'est la différence entre ce que gagne concrètement un club, droits TV, billetterie, sponsoring, marketing, merchandising, et ensuite ce que ça lui coûte, salaire, rémunération, charges fiscales, taxes.
Justement, sur ces excédents d'exploitation, là, sur ces résultats d'exploitation, il y a les excédents ou pas. Et là, surprise, ce qui me paraît étonnant, c'est que sur les 20 clubs de Ligue 1, il n'y en a que 4.
Exactement.
Qui sont
excédentaires. Ce qui est inquiétant.
Ça, c'est quand même assez incroyable.
Ce qui est inquiétant, c'est que concrètement, un club de football qui est censé vivre et en tout cas pérenniser sa comptabilité et son budget sur ce que lui rapporte concrètement le spectacle footballistique, les matchs, la billetterie, les droits TV, 16 clubs de Ligue 1 sont déficitaires. 16 clubs de Ligue 1 n'arrivent pas à générer
Est-ce
de l'argent.
Ça veut dire que 16 clubs de Ligue 1 sont mal gérés.
Ça veut dire que les clubs de Ligue 1 aujourd'hui, c'est ce que je mets en avant ensuite dans les résultats nets où on va intégrer les transferts et les ventes de joueurs et les amortissements et les de ventes de joueurs, les transferts. Les clubs de Ligue 1 aujourd'hui sont basés essentiellement sur le trading joueur. On a 16 clubs qui sont déficitaires sur l'exploitation du spectacle footballistique, mais ensuite on en a seulement 5 dans les résultats nets qui sont déficitaires, alors que tous les autres sont excédentaires en résultat net à travers la vente de joueurs.
La
vente de joueurs. C'est ce qu'on donc concrètement, en France,
juste
aujourd'hui...
Sur le résultat d'exploitation, les 4 donc, qui sont excédentaires, dans c'est Lyon.
25 millions.
25 millions, c'est pas mal quand même. Résultat, bon, c'est sans doute beaucoup dû au nouveau stade, j'imagine. Strasbourg, club éminemment bien géré, vous le savez. 3 et Amiens.
Ouais.
Voilà.
Ça, c'est et quatre, ce qui est très intéressant, c'est que même si je regarde...
Ramené, tu m'étonnes, ils peuvent vivre encore des années. Hein. À 3.
Alors, précise que c'est sur la saison dernière. Hein,
donc oui.
3 était en Ligue 1, évidemment.
Et ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes ensuite le résultat net, les 5 clubs les plus riches de France... En termes de résultats nets, donc ce qu'ils gagnent après avoir payé les taxes, les impôts et toutes les charges, c'est Paris avec 31 millions d'euros de bénéfices, Angers 11 millions d'euros, Lyon 8 millions, Amiens 6 millions et Dijon 5 millions. Voici les 5 clubs les plus riches de France. Voilà.
Donc, voilà, quand tu nous dis Angers, alors, deuxième club le plus riche de France, c'est que
en termes de rentabilité, en termes de lucrativité, en termes d'entreprise, si vraiment on considère le football comme une entreprise, comme un marché à part entière, concrètement aujourd'hui, je le répète, en termes d'exploitation, 16 clubs sont déficitaires et donc sont totalement dépendants de la vente de joueurs, du trading joueur.
Donc
et
ça veut dire que tout le reste, si on traduit, ça veut dire que tout le reste,
la billetterie ne rapporte pas, les droits TV ne rapportent pas,
ils ne sont pas attractifs, ils n'attirent pas des gens au stade, ils ne développent rien autour d'eux en tant que en politique commerciale. Tu vois, c'est presque un peu déprimant.
Bien sûr.
Ça veut dire que
dans
cette ville autour de ce club-là, rien ne fonctionne.
Et bien sûr. C'est la production de spectacles sportifs. La première chose d'un club de football, c'est pas de vendre des joueurs. La première chose d'un club de football, c'est de produire du spectacle. Produire du football. Exactement.
On n'avait pas les chiffres.
Ouais.
Donc là, toi, tu viens avec les chiffres, tu confirmes ça. Mais l'inquiétude qu'on avait, mais là, elle se concrétise. Ça veut dire que, Si pour un patron, le patron d'un club comme ça, le seul moyen de gagner de l'argent, de pas être dans le rouge, c'est ça, ben ça veut dire qu'en gros, l'objectif sportif, l'objectif de jouer pour un public, d'être le représentant de ta ville, tout, c'est terminé.
C'est vraiment c'est maintenant autre football, exactement. En fait. Exactement. On change de modèle économique. On change de modèle économique.
Nous, on le pressentait. Là,
tu as la confirmation.
Voilà. Ce qui serait sympa, ce qui serait bien de faire, et tu reviendras sur
l'émission, hein,
Gilbert.
Vas-y.
C'est que tu reprennes les autres années, et même les années, il y a 15 ans, par exemple, où tu avais l'impression que c'était pas le même foot. Du moins, moi, j'ai pas eu la sensation de connaître ce foot-là.
Je peux juste faire le comparatif sur la saison dernière, enfin donc 2016-2017, donc là c'est 2017-2018, t'as une augmentation de la dette du résultat d'exploitation, plus 56%, on était à moins 101 millions et on est à moins 158 aujourd'hui.
Non, mais donc il y a aussi une augmentation assez inquiétante. Que, l'économie de la grande partie des clubs, ça va être ça.
Bien sûr, mais ce qui est inquiétant...
Et ça rejoint un autre débat qu'on voulait faire et qu'on fera.
Qu'on va faire.
Aujourd'hui... Pour un supporter, qu'est-ce qui va le conduire à aller au stade, sachant que son club n'est plus qu'un club de foot, est devenu une entreprise de trading, quoi. En
fait. Qui vise essentiellement aujourd'hui, voilà, je le répète, le football aujourd'hui, c'est plus produire du spectacle footballistique.
C'est qui les quatre que tu m'as dit là déjà
Qui sont quoi? Qui sont excédentaires ou déficitaires?
Non, les quatre.
Les plus riches. Amiens, ouais. Amiens et Angers.
Amiens, Dijon, Lyon, Paris.
La vente de joueurs.
Ouais. Mais grâce justement à la vente de joueurs, ils deviennent ils deviennent excédentaires grâce à la vente de joueurs. Mais les quatre,
besoin de vente de joueurs.
Voilà, les quatre, c'est Lyon, Strasbourg, Troyes et Amiens.
Ah, mais Troyes, ils sont les deux.
C'est ouf quand tu vois ça. Et donc
Troyes, Strasbourg, Lyon.
Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que les résultats disent? On va parler de deux clubs qui envisagent d'être en Coupe d'Europe l'année prochaine.
Très donc, très inquiétant.
Et donc de Marseille, par exemple.
Moi, je vais te dire, Lille
est un des clubs phares de notre championnat.
Lille et Marseille.
Je pense, c'est un des seuls clubs dans le qui est dans le rouge, je crois.
Dans le rouge.
Des résultats en plus, qui a une masse salariale de malade. Qui a une masse salariale, il faut le savoir, plus importante que celle de Lyon.
Ouais.
Marseille.
Ah oui.
C'est Marseille, fou, ils sont fou. À 125 millions de masse salariale et Lyon, ils sont à 60 millions de masse salariale.
Lyon, ce qu'il est.
Attends. Marseille est au double de masse salariale de Lyon.
D'après les rapports de la DNCG, moi j'ai Marseille 125 millions d'euros de masse salariale.
Incroyable.
C'est incroyable.
Marseille au double de Lyon.
C'est sûr qu'ils ont le double de Lyon.
Alors, ça, je pense, que ça a dû changer depuis l'arrivée de Balotelli Strootman.
Et donc,
encore plus augmenté.
Qu'est-ce qu'on peut envisager pour un club?
Ça, c'est les chiffres une nouvelle fois de la saison dernière.
Parce que là-dessus, excuse-moi Daniel, mais là-dessus,
mais ces chiffres-là, ils sont incontestables, Daniel. C'est livré par la DNCG,
c'est extrêmement inquiétant.
Ceux qui n'ont pas besoin de vendre, du moins qui gagnent de l'argent quand même sans vendre de joueurs, là, les Lyon, c'est grâce à leur stade. On est d'accord. Sinon, ils seraient dans le rouge comme Marseille, à mon avis, par rapport à la masse salariale. Strasbourg. Amiens aussi, tu m'as dit.
Ça, Amiens, ouais.
Strasbourg-Amiens. Déjà, Strasbourg-Amiens, la masse salariale, elle doit pas être énorme.
Bah, je peux te le donner, hein. Masse salariale d'Amiens est 15 millions et Strasbourg, masse salariale, 17 millions.
Eh bah ouais. Donc, déjà, rien que ça, c'est que les joueurs, et c'est normal.
L'OM a une masse salariale de 125 millions supérieure à celle de l'OL.
Non. Pas 125 millions supérieurs.
Si, ils ont 125 millions supérieurs à celle de l'OL. Moi, c'est les chiffres.
Mais non, 125 millions. Non,
c'est quoi le chiffre de l'OL? Le chiffre de l'OL, Pierre te dit.
C'est 60.
Donc l'OM, la saison dernière,
65 millions en plus.
Deux fois plus importante que celle de Lyon, qui pour moi est totalement hallucinant.
Non, mais déjà par rapport.
Et qu'on fasse une pause, les gars. Après, ensuite, on continue le débat. Le 32-16 est ouvert. Hein, si vous êtes intéressé par toutes ces questions économiques, pour poser des questions directes à Pierre, c'est le moment. Faites le 32-16. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten est là, Pierre Rondeau également. Alors c'est le track, hein, parce que c'est vrai que passer dans l'after, c'est toujours un peu...
C'est surtout le tableur Excel qui est rempli de lignes.
Non, on a refait tout le classement pendant la pub. Là.
Donc il y a eu la chiffre sur la masse salariale de Lyon.
Et je me suis trompé d'une ligne sur mon tableur, donc on a 115 millions d'euros.
Le classement, Pierre. Fait le classement dans
l'ordre. Alors le classement, on a donc...
Le
PSG est à 332 millions d'euros de masse salariale.
Donc ils éclatent tout le monde.
Monaco,
on a 132 millions d'euros de masse salariale.
Ça montre déjà l'écart entre le premier et le deuxième.
Ouais. Ensuite, Marseille, 125 millions d'euros de masse salariale. Lyon, donc l'erreur de ligne, 115 millions d'euros de masse salariale.
Ouais, c'est plus logique. Oui, bien sûr.
Ce qui est plus logique, c'est vrai. Ensuite, nous avons...
On descend à 60.
Lille, 68.
Lille, 5e.
Lille et Bordeaux.
68 millions. Nice. Et ensuite...
Nice, 61.
Et Bordeaux, 60. 50. Ouais, 60, on arrondit.
Après, il y a Rennes, Saint-Etienne et Nantes. Rennes, 50
millions. Et voilà, l'écart assez impressionnant entre
moi, ce qui m'intéresse,
PSG.
Ce que je trouve assez intéressant dans ces chiffres, c'est de finalement de mettre en rapport la masse salariale avec le résultat sportif au final.
Ouais.
Ce qui, normalement, dans tous les livres d'économie...
Ah ouais, on te dit les corrélations,
et 80%. Et l'indicateur, la corrélation masse salariale résultat ça, hein. Plus que budget, souvent.
C'est ça, en fait. Hein. Bah, regarde le classement aujourd'hui.
Pas pour Marseille.
Non, à 80%, donc t'as 20%. De
oui, c'est une corrélation sur une grande temporalité, 80%. Ouais.
Toi, oui, l'anomalie des
anomalies, bien sûr.
C'est Marseille.
Oui, voilà.
Monaco.
Et Monaco aussi, très certainement.
Ne trompe pas d'année. Là, on parle de la saison dernière. Ces chiffres-là, c'est la saison dernière.
Pardon. Oui, je pense. Oui, enfin bon, la masse salariale de. Ah oui, on n'a pas la masse salariale de cette année.
La saison dernière, 2017-2018.
La saison dernière, c'est quasiment.
Je suis pas sûr qu'elle ait baissé à Marseille.
Elle a absolument pas baissé à Marseille. Au contraire, elle a augmenté. C'est pour ça que c'est extrêmement inquiétant pour les finances marseillaises. Aujourd'hui, Marseille.
Qu'est-ce qui est inquiétant concrètement pour
aujourd'hui, Marseille, en termes de résultats d'exploitation, donc je répète, sur ce qu'il gagne concrètement et ce qu'il perd concrètement en tant que club de foot, Marseille est à moins 76 millions d'euros et en termes de résultats nets moins 78 millions d'euros. Ils ont une dette de 78 millions.
C'est pas un business qui marche bien.
C'est pas un business qui marche, mais il marche pas du tout même. Et en plus, on parle de la saison passée. Donc cette saison.
Une belle saison.
Cette saison, donc se rajoute à la saison passée une dette de 78 millions d'euros, se rajoute une élimination précoce en Europa League, une probable ou non qualification en Ligue des Champions, ce qu'ils souhaiteraient parce que sinon, ou en Europa League, mais l'Europa League ça rapporte très peu.
T'as juste une billetterie avec les matchs à huis clos et
exactement.
Autres.
Aujourd'hui c'est simple, aujourd'hui l'OM, si je fais le ratio masse salariale et produit d'exploitation de ce qu'il gagne, Marseille, 87% de ce qu'il gagne va directement dans le salaire pour la saison passée. Alors que cette saison, on est d'accord que la masse salariale va encore plus augmenter.
Tiens, on a Adnan avec nous qui a une lecture un peu différente des chiffres, lui. Bonsoir.
Oui, bonsoir à l'équipe.
Salut, ça va ?
Salut.
Très bien, très bien. Alors, je tiens à préciser que je suis un fidèle auditeur de toutes les émissions. Particulièrement celle du soir où je constate que ça se lâche un peu plus ou enfin je sais pas d'ailleurs hein, c'est à vous de me dire mais voilà, je vous écoute.
Alors toi t'as une lecture un peu différente des chiffres là.
Alors pas tout à fait j'entends ce que vous dites hein, mais je trouve que j'allais dire analyser les chiffres à l'instant T je trouve que ça neutralise complètement j'allais dire la stratégie de l'investisseur quand on prend un gars comme Jean-Michel Aulas. Je veux dire, c'est pas un lapin de trois semaines. J'ai rien contre Marseille, hein, mais il me semble quand même que le président marseillais a l'air moins judicieux dans ses investissements, dans ses choix de recrutement, qu'un Jean-Michel Aulas. Moi, j'analyserai la chose sur plusieurs années. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas si j'arrive à bien.
Oui, c'est-à-dire que en macroéconomie, enfin les grandes entreprises, souvent on fait des projections sur trois ans. C'est-à-dire qu'on dit voilà pour voir l'évolution du chiffre d'affaires.
Donc là, vous prêchez un convaincu. Vous voyez ? J'entends ce que vous dites. Après, ce que je constate, c'est que il y a des choix qui sont différents. Soit on recrute, j'allais dire une top star, et là il faut aligner le chèque. Soit on recrute des joueurs, j'allais dire qui ont de l'avenir, et là ils peuvent s'avérer, j'allais dire plus performants et de manière plus précoce. Et donc quand on fait le ratio in fine, on se rend compte qu'effectivement ce joueur-là est peut-être plus performant qu'un Balotelli lorsqu'on rapporte ce qu'il coûte en salaire à ce qu'il produit sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
Pour aller dans son sens, il a entièrement raison. Qu'en termes d'investissement, je dirais structurel à long terme, une visée de long terme. Quand on prend Lille, par exemple, Lille qui a une dette, qui je précise a été rachetée depuis la saison dernière, mais une dette de 142 millions d'euros. On peut aussi considérer d'un point de vue sportif que cette dette-là a permis aujourd'hui à ce que Lille soit deuxième du championnat. Donc c'est aussi un investissement de s'endetter pour grossir et grandir. Alors, sportivement.
Pour ceux qui ne comprennent rien à tout ça, globalement, si tu devais résumer, parce qu'il nous reste deux minutes, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui le foot français est en bonne santé, en mauvaise santé, on voit
de guérison? Moi, c'est plus le modèle, parce que 176 millions de trous pour 40 clubs, c'est pas si énorme.
Bien sûr, oui, non, c'est pas si grave. Ce qui est inquiétant, à mon sens, c'est que l'exploitation du club de football ne soit pas rentable. Et que les dirigeants doivent passer par la vente de joueurs pour être rentable, pour que ça soit dans le vert. Ça, c'est inquiétant. Parce qu'à terme, c'est-à-dire que si demain, ils n'ont pas le joueur qu'ils vont vendre à 50, 60, 70 millions d'euros, si demain, ils n'ont pas ce joueur, eh ben ils font faillite, parce qu'ils n'auront pas l'argent.
Un mot sur la télédépendance pour conclure, parce qu'il y a une vraie télédépendance des clubs français. Hein, parce que, en gros, c'est l'argent des droits télé qui finance nos clubs.
Ouais. Pour on est sur entre 45 et 50% de dépendance de droits télé.
Ouais. Pour certains clubs, on va même plus haut.
Et là, c'est une moyenne. C'est une moyenne dans laquelle j'ai intégré le Paris Saint-Germain. Ouais. Mécaniquement, d'autres clubs, eux, sont dépendants à 60-70% de la manne télévisuelle.
Après, j'entends certains agents nous dire il faut protéger les joueurs des médias. Mais les cocos, s'il n'y a pas les médias,
bah, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien.
Il n'y a plus rien.
Et en précisant que cette dépendance, je pense, va encore grossir avec les droits TV qui vont passer à 1 milliard en 2020. Avec ces droits TV à 1 milliard, on aura encore plus de dépendance vis-à-vis de ces droits.
Adnan, merci beaucoup.
Alors, 30 secondes, les gars, juste un dernier petit commentaire. Je vous promets que je vais être tranquille. Pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, si par exemple on prend, j'ai plus l'année exacte en tête, mais la saison où Monaco a vraiment dégraissé en vendant des James, etc., et si on rapporte ça à leur résultat sportif, eh bien là on a une rentabilité qui est juste exceptionnelle. Alors que en résultat sportif, on n'était pas forcément au top. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, résultat économique, résultat sportif.
Ouais, enfin bon, voilà, n'oublions pas que la fidélité d'un club de foot, c'est de gagner des titres.
Oui, mais voilà,
c'est pas de faire de la thune.
Quelle est l'essence même d'un club de football?
C'est mon point de vue, c'est pas le point de vue de tous les dirigeants.
Aujourd'hui, c'est le point de vue de très peu de dirigeants.
Oui.
C'est pour ça qu'on se bat.
L'essence d'un club de football, c'est de gagner sportivement, c'est pas de faire de l'argent. Mmh. Alors oui, après on dira que l'économie d'aujourd'hui pousse à créer des bénéfices, à générer des bénéfices.
Ce qui nous renvoie donc à notre futur débat dont Daniel a parlé. Aujourd'hui, peut-on s'identifier à un club qui a pour modèle uniquement de faire de la thune et plus de gagner des titres, parce que c'est ça, hein, pour schématiser.
On a pas le temps de parler du vice de procédure qui a permis au PSG de, pour l'instant, mettre entre parenthèses les problèmes liés au fair play financier.
On peut en parler si on a le temps.
Bah oui, mais très rapidement. Ou alors tu restes après 23h.
Je peux rester après. Bah, avec Thibault Leplat.
Tu restes avec Thibault Leplat qui va nous rejoindre dans quelques instants.
Mais oui.
L'after est là dans quelques instants. La philosophie du beau jeu au programme. Et oui, et vous, les afteriens qui êtes des fidèles, vous êtes plutôt les élèves du beau jeu. Évidemment, je pense. Quoique des fois, on est adepte de la victoire aussi, qui est pas forcément toujours belle. On va en débattre. Tout ça est très philosophique. Et ça tombe bien puisque Thibault Leplat est prof de philo. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot.